Internet Campagne. Bonjour, nous nous implantons pendant la semaine dans le département de l'Eure qui gagne petit à petit de nouveaux habitants dépassant la barre des 600 000 habitants. On demeure toutefois dans un espace rural, à l'image de son agriculture encore bien présente ici. Ce contexte favorise l'émergence de projets écotouristiques comme celui défendu par l'association Les Ailes d'Animia. Animia s'écrit avec un Y, je le signale au passage. Animia, en cours de construction, sera une ferme éco-solidaire développée autour du tourisme animalier. Une formule originale qui place cette future ferme à Val-de-Reuil sur 10 hectares entre la ferme pédagogique et le parc animalier. Vous pouvez suivre l'avancement des travaux du projet sur la page du site qui lui est dédié, www.animia.fr. Premiers invités eurois, Clément Bresciani, coordinateur de l'association Les Vagabonds de l'énergie à Louviers pour un tour du monde des énergies renouvelables. Et puis Maxime Mine qui prépare, on en revient à l'agriculture, l'installation du collectif des fermes d'ici, un réseau de producteurs en vente directe à l'image de celui qui existe déjà chez le voisin de Seine-Maritime.
France Inter, carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Clément Bresciani, bonjour.
Bonjour Philippe.
Clément, vous êtes avec François, les vagabonds du monde des énergies renouvelables. C'est une sacrée idée, un drôle de projet. Vous aviez commencé en lançant votre association en 2009, les vagabonds de l'énergie, par un premier voyage. Et vous avez remis les couverts pour 18 mois, 70 000 kilomètres traversés.
C'est ça, en fait, c'est deux premiers vagabonds qui ont créé l'association. Et nous, on l'a repris et on a mis en place ce voyage qui a duré effectivement 18 mois.
Il y a une explication dans votre démarche, parce que vous, Clément, vous êtes conseiller info et énergie.
Oui, c'est ça. J'ai bossé dans ce secteur pendant 3 ans et demi. Et mon collègue aussi, qui construisait des maisons, l'a toujours fait de manière la plus durable possible. Donc on était déjà tous les deux très engagés sur la thématique de l'écologie. Oui.
On va dire que chez nous, ça avance, mais ça avance pas assez vite. Vous confirmez ?
Oui, je confirme. Et ce qu'on peut voir aussi en allant à travers le monde, c'est que finalement, on est quand même un des pays les plus avancés en matière d'écologie. Même si on est encore loin du compte et qu'il y a beaucoup de travail, on remarque qu'il y a beaucoup de pays dans lesquels il n'y a presque aucune initiative dans ce sens-là.
Alors, c'est dû à quoi ? C'est une volonté politique ou c'est un des intérêts de la population pour les énergies renouvelables ?
C'est dû à plusieurs choses, mais à mon avis, c'est avant tout dû au fait que dans les pays développés, dont la France fait partie, on a la chance d'avoir déjà un confort de vie qui est suffisant pour pouvoir se poser ce genre de questions de l'écologie. Alors que dans bien d'autres pays qui se développent, qui ont le même niveau de confort que nous, on est encore en train de se préoccuper plutôt de qu'est-ce qu'on va manger, un toit pour dormir, un travail, avoir des relations sociales. Et donc tout ça prime évidemment avant de se poser les questions de l'écologie.
Donc vous voulez dire que ce sont les pays dits riches qui sont plus portés vers la transition énergétique ?
C'est ça, exactement. C'est qu'on peut se permettre ces convictions-là, parce qu'on a du temps disponible, on va dire.
Comment changer cet état de fait ? Comment changer cette donne, Clément ? Essayer de rééquilibrer les choses.
Alors, c'est assez difficile, mais avant tout, nous, on pense qu'il faut être conscient des enjeux. Et il faut être aussi conscient de toutes les possibilités qu'on a pour faire changer les choses sur ces sujets-là. Donc, nous, ce qu'on veut avant tout, c'est renseigner, informer les citoyens sur l'urgence déjà et sur les différentes possibilités qu'on peut avoir.
Vous avez relevé les bonnes pratiques, mais vous avez relevé aussi des erreurs en situation. On parle très souvent des bonnes pratiques dans les carnets, mais quelles sont les erreurs les plus manifestes ? Pourquoi ça ne marche pas à certains endroits ?
Nous, ce qu'on a constaté, c'est que bien souvent, les erreurs étaient d'ordre social ou en tout cas sociologique. C'est-à-dire que dans les pays qui se développent, par exemple, on va avoir des plans de financement d'énergie qui sont parfois de l'énergie renouvelable, et c'est très bien, mais où on va appliquer un modèle très occidental sur la gouvernance à des cultures qui n'ont pas forcément cette habitude-là. Et nous, on l'a vu, par exemple, sur un projet à Haïti qui est de très bonne volonté, avec beaucoup d'argent qui est mis sur la table par des banques de développement internationales. Mais cet argent-là n'est pas forcément toujours bien utilisé. Et en fait, on est arrivé dans un projet où il y avait beaucoup de problèmes, beaucoup de tensions entre les différents acteurs. Et donc ça, c'est une erreur qui est bien souvent faite, c'est de ne pas assez prendre en compte les personnes qui vivent sur le terrain, parce que finalement, c'est elles qui vont utiliser l'énergie. Donc si on ne travaille pas avec ces personnes-là, on a toutes les chances d'avoir un projet qui ne ressemble pas forcément au territoire.
Ouais. Je dis souvent, plus l'initiative est locale, plus elle a de chances de réussir, vous confirmez ?
Exactement, plus on fait adhérer les personnes locales, plus elle a de chances de réussir, tout à fait.
C'est-à-dire, vous dites, plus les citoyens sont impliqués à un niveau local, mieux les projets marchent. Et au contraire, là, à partir du moment où il y a une décision supérieure qui vient d'instances de décision, le projet a tendance à capoter.
Oui, peut y avoir des points de blocage qui se créent effectivement. Alors nous, on ne dit pas forcément que le projet doit absolument être exclusivement citoyen, mais que le citoyen doit être inclus dans la boucle. Donc si on met les citoyens avec les élus, les acteurs locaux, les entreprises, les associations, et qu'on met tout ce monde-là autour de la table, bien avant même de contacter un promoteur éolien par exemple, eh ben, ça se passera beaucoup mieux, alors que si le promoteur éolien fait son business avec la mairie, par exemple, et que les citoyens sont au courant au dernier moment qu'il y a un projet qui se fait en face de chez eux, là, on va avoir un phénomène de rejet.
Et ce qui est inquiétant, vous dites, les pratiques ne sont pas unanimement partagées. Or, la transition énergétique importe aussi sur le changement climatique. C'est inquiétant, ce que vous nous dites.
Bah effectivement oui, on a le problème des ressources fossiles, on a le problème du réchauffement climatique. Donc il y a une urgence, mais ce qui est compliqué, c'est que on voit bien qu'on ça marche pas d'agir de manière urgente. On voit bien que si on décide d'augmenter le prix du pétrole et le prix à la pompe directement, et bah il y a un problème social derrière. Donc il faut un accompagnement, il faut des mesures qui prennent en compte tout ça, c'est un problème qui est très complexe.
Sur le site vagabond.energie.org, on peut suivre, ainsi que sur votre page Facebook, mais sur le site particulièrement, les reportages que vous avez réalisés à travers les 35 pays visités, c'est ça hein ?
Tout à fait. Donc, il y a 10 reportages de terrain qui sont visionnables en ligne. Et puis, on est en train de préparer un documentaire aussi en plus long format qui sera prêt que l'année prochaine ou l'année suivante.
Belle initiative, les vagabonds de l'énergie avec Clément Bresciani. Merci Clément.
Merci à vous.
Carnet de campagne. Philippe Bertrand sur France Inter.
Pas de doute, la page agricole tient une bonne place dans cette édition avec des formations exemplaires au lycée agricole de Chambray, situé à Gouville, entre Évreux, Verneuil-sur-Avre. Cet établissement ne dispense pas exclusivement des formations métiers de l'agriculture, mais s'ouvre à de nombreuses professions, à commencer par les métiers de l'environnement. Il se dit que d'anciens élèves sont vétérinaires, tandis que d'autres poursuivent des études de médecine. Mais ce qui attire surtout notre attention est le CRE, le Centre de ressources et d'éducation à l'environnement du lycée de Chambray. Nous sommes ici dans un espace historique prestigieux avec l'ancienne seigneurie dont les fondations remontent au XVe siècle dans un environnement que le CRE souhaite valoriser dans le cadre d'un large développement durable. Le centre a dessiné des parcours pédagogiques à cet endroit et il propose aussi des animations et des formations pour tous les publics autour, entre autres, de son potager du XVIIIe siècle dont la restauration est financée par le Fonds européen Leader. Il offre aussi des formations sur les milieux humides, les milieux forestiers, sur l'histoire de ce territoire et sur la protection de la ressource en eau. Et entre parenthèses, il a fortement développé au lycée des pôles de compétences agriculture, eau et environnement. Des animations sont également spécifiquement organisées à destination des scolaires, de la maternelle jusqu'au lycée. Il y a un lien sur franceinter.fr à notre page avec ce centre ainsi que sur notre page Facebook. Maxime Mine, bonjour.
Bonjour Philippe.
Vous êtes parent avec Olivier ?
Non, pas du tout.
Je teste au cas où.
Voilà.
Dites, vous faites les choses à l'envers parce que vous êtes responsable d'un secteur de développement dans le département de l'Eure qui vient d'être mis en ligne, d'un collectif de producteurs, le collectif des fermes d'ici qui est né à Embruménil en Seine-Maritime qui regroupe 80 producteurs. Alors vous, je dis, vous faites les choses à l'envers parce que d'habitude, les producteurs se réunissent et puis ont un lieu de vente. Là, et puis ensuite mettre en ligne, vous c'est l'inverse. Il y avait une mise en ligne des produits et maintenant vous avez un lieu de vente.
Voilà, c'est ça. Alors en fait, on prépare des commandes pour trois types de clients. Des clients particuliers qui sont livrés au sein de points relais, qui commandent sur notre site internet lesfermesdici.fr. On livre également des clients restaurateurs et on livre des clients qui sont des clients revendeurs. Donc pour l'instant, pas de lieu de vente, uniquement une activité de préparation de commandes, mais dans un second temps, on va voilà distribuer les produits des producteurs des fermes d'ici au sein de magasins.
Oui. Alors du côté Seine-Maritime, il y a un magasin qui a été inauguré il y a un an à Sainte-Marie-des-Champs.
C'est ça exactement, tout près d'Yvetot.
Ouais.
Nous, il y aura un magasin sûrement qui sera mis en place à Passy-sur-Eure, courant de l'année 2019.
Les maîtres mots que vous défendez, c'est la transparence, le respect du travail des producteurs et du porte-monnaie des consommateurs. Le porte-monnaie des consommateurs aujourd'hui dégonfle de plus en plus, ce qui implique un frein sur l'achat et la consommation de produits locaux, de qualité.
Oui.
Comment vous arrivez à maintenir un prix abordable ?
Alors, Le prix est abordable, enfin ne semble pas abordable dans un premier temps par les clients, parce qu'on est un prix qui est un petit peu supérieur au prix du marché quand on regarde uniquement le prix facial. Par contre, dans l'utilisation des produits, on s'y retrouve mieux, parce que ce sont des produits qui sont plus goûteux, plus savoureux, par exemple dans le cas d'une crème fraîche fermière et d'une crème épaisse.
Oui.
C'est une crème assez riche, on va en mettre beaucoup moins, on n'a pas de réduction en cuisson dans la poêle, et donc du coup le prix facial qui est un peu plus important, on va avoir une économie sur le produit lors de l'utilisation de ce produit.
Les produits que l'on trouve dans le collectif sont bio ou non ?
Alors, ils sont pas forcément bio. En fait, aux fermes d'ici, on a sélectionné les producteurs sur différents critères. Le premier critère, c'est le bon, il faut que ce soit bon gustativement. Ensuite, on a sélectionné des critères de qualité pour la santé du client, donc bio ou agriculture raisonnée.
Mmh.
Et également, on a des critères de respect environnemental. On va préférer des producteurs qui travaillent dans le respect de l'environnement plutôt que d'autres qui sont sur des systèmes un peu plus intensifs.
Ouais. Je posais la question parce qu'on a parlé, on parle régulièrement du réseau des magasins Biocoop,
oui.
Qui ont augmenté leur chiffre d'affaires les dernières années. Aujourd'hui, ils piétinent, et ils piétinent entre autres parce que les grandes enseignes vont aussi vers des offres de produits bio. Est-ce que ça peut être gênant pour le développement d'un collectif comme le vôtre ?
Non, parce que nos collectifs sont vraiment attachés à des terroirs et on va vraiment pouvoir mettre en avant, de par nos connaissances du milieu agricole et du terroir, chaque façon de travailler du producteur, et chaque producteur a vraiment une identité, et c'est des choses qu'on s'efforce à mettre en avant pour justement se différencier de tous ces gens-là qui font du bio ou du local à plus grande échelle.
Mmh. Les producteurs du réseau n'écoulent pas leur production totalement par le collectif, j'imagine.
Non, en fait, les producteurs du réseau des fermes d'ici sont des gens qui travaillent déjà en vente directe.
Oui.
Et nous, les fermes d'ici, on est un facilitateur pour ces producteurs-là. On fait du commerce et de la logistique pour eux sur les trois créneaux que je vous ai cités tout à l'heure.
Mmh. Pour garder la fraîcheur avec le respect de transparence que vous annoncez, vous limitez le rayon de distribution ?
Oui, alors en fait, on se base sur un département, une zone géographique pour sourcer nos producteurs. Et ensuite, on travaille dans cette zone géographique. Donc dans l'heure, ce sera le sud de Rouen, Évreux, et puis Passy-sur-Eure, Vernon. C'est une zone où on est très actif commercialement. Donc on va livrer deux fois par semaine dans ces zones-là, et dans d'autres zones sur le reste du département, on va livrer un peu moins souvent.
Mmh. Et ce que vous proposez, Maxime, c'est l'avenir de l'agriculture en France ?
Je pense qu'il faut tous les systèmes pour que ça fonctionne. Donc il faut des producteurs qui continuent à faire fonctionner des fermes agricoles, des fermes vivrières, des petites exploitations de polyculture élevage. Il faut également des fermes un petit peu plus importantes, qui vont continuer à fournir l'industrie, à fournir la grande distribution, parce que le gâteau est grand et
oui,
on peut se le partager entre les différents intervenants.
Absolument. Les fermes d'ici, du côté Seine-Maritime depuis plusieurs années, mais voilà, maintenant, il y a aussi les fermes d'ici dans le département de l'Eure, lesfermesdici.fr pour l'adresse, vous allez trouver le lien avec la page Facebook, avec une mise en ligne qui est toute récemment inaugurée. Merci Maxime.
Voilà, merci Philippe.
Merci de continuer à nous écrire si vous habitez les départements de la Lozère, du Nord ou du Pas-de-Calais.